Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette dernière émission avant la trêve des confiseurs.
Voilà.
Donc, vous voyez, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël, une très bonne année.
Une très bonne année.
Et tout ce qui va avec, dans cette ambiance festive d'aujourd'hui. Alors, en revanche, je vais devoir enlever ça, sinon je vais loucher comme Dalida pendant toute l'émission. Mais l'idée est là, c'était pour vous souhaiter... Et vous remercier de nous avoir suivis toute cette année avec la ferveur qui est la vôtre. Ceux qui ont pris l'abonnement à l'Université de l'Épargne aussi, on vous remercie. Ceux qui ont acheté le livre de Charles, on vous remercie aussi. Il est encore temps de le faire.
Absolument.
Pour vos petits souliers, enfin du moins je l'espère. Et ce qu'on aimerait faire dans cette dernière émission avant la proverbiale fête trêve des confiseurs, c'est un petit peu revenir... sur plusieurs choses. Alors moi j'aimerais qu'on revienne déjà au début sur une notion qui est beaucoup utilisée par nos politiques aujourd'hui et qui est une sorte de mou pour chat en ce qu'ils n'arrivent pas à la définir et qu'on aimerait justement nous définir, qui est le pouvoir d'achat. Alors c'est une notion très importante sur laquelle Charles va s'exprimer.
Oui.
Et ensuite, dans une seconde partie, j'aimerais bien qu'on fasse un peu un tour d'horizon. Bam, il n'est pas d'accord. Le livre est tombé derrière.
Le livre est tombé. Mauvais présage.
Voilà. Un tour d'horizon de ce qui, de ce qui s'est passé et ce vers quoi 2025 va s'ouvrir, c'est-à-dire les États-Unis, ce qui se passe, la Chine, ce qui se passe, et voir un peu ce qui va se passer. Enfin, on n'est pas Madame Irma, mais quels sont les jalons qui vont constituer début 2025. Voilà. Alors, revenons d'abord sur le pouvoir d'achat.
Revenons d'abord. Et avant le pouvoir d'achat, je veux dire que certains d'entre vous à l'Institut des Libertés ont peut-être craint que l'Université de l'Épargne ne nous fasse perdre un petit peu de notre enthousiasme pour l'Institut des Libertés. Pas du tout. Je suis en train de travailler avec Emmanuel et d'autres sur des programmes qu'on va ajouter à l'Institut des Libertés et en particulier dans le domaine de la sécurité. Parce que c'est quand même une des grandes questions en France et on va essayer de créer une espèce d'endroit où on parlera que de la sécurité. Et ce sera la grande innovation de 2025. Voilà. Et je ferai ça sans doute avec Xavier Roffert, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a été très souvent ici avec Hervé Juvin, et qui connaît bien les problèmes de sécurité. Et aussi sans doute avec Conflit. Vous savez, le journal du groupe Causeur, qui est spécialisé dans tous les problèmes, justement, de géopolitique, de sécurité et tout. Donc, on est en train d'essayer de réfléchir à comment vous présenter les problèmes de la sécurité et les solutions. Nous, on a plutôt fait l'économie, la politique, la géopolitique, mais on n'a jamais vraiment abordé les problèmes de... On a reçu Oberton, mais voilà, c'est à peu près tout. Donc, il me semble qu'il va falloir faire ça. Bon, alors le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est un petit peu... une espèce de tarte à la crème. Je vois beaucoup d'hommes politiques qui disent je me battrai sur le front du pouvoir d'achat, il ne baissera pas. Si je peux me permettre, ils n'y peuvent rien, puisqu'ils ne créent par définition aucune valeur marchande. Hein. Ils sont peut-être très utiles, les politiques, j'en doute pas, mais la valeur marchande qu'ils créent n'est pas évidente. Et donc, qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'achat? Comme pour une famille normale, c'est un petit peu ce que vous gagnez. Et puis, vous pouvez avoir un pouvoir d'achat qui est accru pendant quelque temps parce que vous avez emprunté. Donc, c'est ce que vous gagnez plus que vous empruntez. Mais l'embêtant, quand vous empruntez, c'est qu'il faut rembourser.
Dans un monde normal.
Dans un monde normal. Et dans le monde de l'État, où vous pensez que vous ne rembourserez jamais, c'est simplement, il y a quelque chose qui s'appelle le service de la dette. C'est-à-dire que, à force d'emprunter, le service de la dette finit par coûter de plus en plus cher. Vous voyez, le service de la dette, c'est simplement...
Les intérêts que vous payez.
Sur la vieille dette qui est le résultat des déficits passés. Eh bien, à partir du moment où les intérêts sur la dette commencent à être plus forts que l'accroissement de la richesse que vous créez, vous vous appauvrissez.
Alors,
c'est pas possible autrement.
Il y a aussi quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à comprendre et sur lequel j'aimerais revenir. C'est que, et on le dit très souvent, la seule partie de l'économie qui crée de la richesse, c'est le privé. Encore une fois,
la richesse marchande.
La richesse marchande, ça ne veut pas dire que qu'encore une fois, un instituteur, une infirmière n'ont pas de valeur. C'est simplement que ces métiers-là, à partir du moment où ils sont payés sur la levée d'impôts, vous voyez bien que ça n'est qu'une redistribution. Il n'y a pas eu de création à proprement parler. Et comme il n'y a pas eu de création, en réalité, votre gâteau, imaginons que c'était un 33 centimètres, ne s'est pas accru vers un 45. Ça, la partie qui vous permet d'aller, quand vous faites une pizza, de pousser votre pâte à pain, ça, c'est simplement le privé qui peut le faire. Et donc, accroître artificiellement, comme l'ont fait notre personnel politique depuis des années, en recrutant des administratifs et en faisant semblant de tenir un PIB, c'est une mauvaise donne, parce que à terme, un, vous n'accroissez pas la partie 33-45, mais en plus, vous faites peser une charge demain avec les retraites qu'il va falloir payer.
Aujourd'hui, ou des impôts aujourd'hui. Ce que dit Emmanuel est très important, c'est-à-dire la façon dont on calcule le PIB, c'est la richesse créée par le secteur privé, bon, la valeur ajoutée, hein, la somme des valeurs ajoutées du secteur privé. Et comme on ne sait pas calculer la valeur ajoutée d'une infirmière ou d'un professeur ou de n'importe qui d'ailleurs, dans le secteur, puisqu'il n'y a pas de prix, donc il n'y a pas de rentabilité, donc il n'y a pas de valeur ajoutée par définition, ben, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tous ces gens-là, vous dites, ben, leur valeur ajoutée, c'est les salaires que je leur paye. Mais les salaires que vous leur payez, vous les avez piqués à quelqu'un d'autre.
Oui,
donc il n'y a pas de valeur ajoutée.
Encore une fois, ça n'est qu'une grande redistribution à l'intérieur de l'État. Ils ne sont payés, et là où c'est encore pire, c'est que dans un monde normal, normalement, la fonction administrative ne devrait être payée que par les impôts levés. Or, depuis 1974, ce qui se passe, c'est qu'en plus, on recrute des fonctionnaires que l'on paye avec de la dette. Ce qui veut dire que les points de PIB qu'on a créé artificiellement en recrutant des personnels administratifs en plus, sont payés par une dette qui elle-même va engendrer un service.
Qui sera des impôts sur nos enfants et nos petits-enfants. Parce
voilà.
Que la dette, il faut que vous en souveniez bien, la dette, ça n'est que de l'impôt différé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où la dette devient immense et les intérêts de plus en plus importants, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que nous ne sommes plus en démocratie, puisque la définition même de la démocratie, c'est le vote de l'impôt par les citoyens, leurs représentants. Là, vous mettez des impôts sur des gars qui vont devoir les rembourser dans 20 ans, mais qui les ont pas votés. Et ceux qui ont dépensé l'argent, c'est leurs parents.
Donc, principe américain à l'origine de la Tea Party, no taxation without representation.
Voilà, vous ne pouvez pas
me taxer si je ne suis pas représenté. Et par définition, la personne qui n'est pas encore née ne peut pas être représentée.
Ne peut pas être représentée, et en tout cas, elle n'a pas voté. Donc, pour arriver à une vraie démocratie, si jamais on essayait d'y retenir, parce qu'on n'est plus du tout dans une démocratie, ben, il faudrait rendre le déficit anticonstitutionnel.
Évidemment.
C'est-à-dire que personne n'a le droit de proposer un budget en déficit, surtout pas les hommes politiques. Donc je reviens maintenant à la fonction de pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat, déjà en France, ça a été ce que gagnait le secteur privé, plus le secteur public emprunté pour payer des gens. Bon. Et maintenant, on arrive à un moment, ce qu'on a essayé d'expliquer à plusieurs reprises, où le service de la dette devient tellement important. Je crois qu'il est deux ou trois fois le budget de la justice, par exemple, tu l'avais dit.
Bah, la justice tourne à 11 milliards et le service de la dette est à entre 50 et 60 milliards ce jour. On est plus de 60 milliards.
Donc, et la moitié de cette dette... Alors, dans un pays comme le Japon ou la Chine, la dette est détenue par les locaux.
En interne. On avait vu ça avec l'Italie. C'est une énorme différence.
Donc ça veut dire que si on paye des intérêts à quelqu'un, bah, ça va dans le fond de celui qui est à gauche pour celui qui est à droite qui a de la dette.
Et par ailleurs, ce sont des pays qui aussi ont leur propre monnaie.
Pas l'Italie.
Pas l'Italie, bien sûr, mais je veux dire le Japon. Donc, si à un moment elle décide de racheter sa dette ou d'écraser sa dette, on vous donne 2 pour 3, on vous donne 1 pour 3, voilà, ce sera une affaire interne.
Ce sera une affaire interne. Tandis que là, il y a la moitié de notre dette, au moins, qui est détenue par des étrangers. On sait pas. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, encore une fois, une absence de démocratie, c'est qu'on ne réussit pas à savoir qui. On ne sait pas. Alors, quand je regarde les bilans d'un certain nombre de grands fonds de pension en Europe, comme les fonds de pension hollandais, je me dis, il y a évidemment une partie de la dette, on la voit. Mais je ne sais absolument pas. Et celui qui, dans le fond,
finance...
On
sait que la Chine doit en avoir à peu près 20%.
La Chine en a à peu près 20%. Mais vous rendez compte à quel point ça donne un élément de pression sur le gouvernement français en disant, ben, si vous acceptez pas que, par exemple, Mercosur, eh ben, on va plus acheter votre dette.
Oui, si ça se trouve.
Donc y a, et ça donne un aimant de chantage. Encore une fois, je reviens toujours à la même chose, je suis gâteux, mais c'est une perte de souveraineté.
Et une fragilité. De sorte que c'est une fragilité inhérente à notre pays.
Et donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a toute une série de gens. Vous pouvez faire une espèce de distinction en France entre ceux qui sont payés par leur travail, je ne sais pas, l'ouvrier, le cadre de L'Oréal, ou j'en sais rien, ils sont payés par leur travail.
Le cordonnier, le crémier, le boulanger.
Ils sont payés par leur travail, et ceux qui sont payés par des transferts. Dans ceux qui sont payés par des transferts, il y aura ceux qui sont payés par des transferts, comme justement les professeurs, les instituteurs, les infirmières, etc., qui font un travail. Et puis il y a une partie importante de ces transferts qui vont faire des gens qui ne sont pas, qui ne travaillent pas. Alors là-dedans, il y en a deux. Il y a les retraités. Et puis il y a ceux qui ne travaillent pas du tout alors qu'ils pourraient.
Oui.
Je porte pas de jugement de valeur. Il y a beaucoup d'argent qui part vers cela.
Dans les transferts sociaux, il est certain qu'à partir du moment où on a eu, depuis 1974 à nouveau, une politique d'ouverture des frontières sans véritablement de choix, on se retrouve forcément avec un certain nombre de passagers clandestins qui ne devraient pas être les nôtres.
Voilà. Et par exemple, en Allemagne, où ils commencent à se poser des questions sur ces transferts à des gens qui ne travaillent pas, il y a un mouvement populaire, il va y avoir des élections en Allemagne d'ailleurs, il y a même un mouvement populaire assez fort pour qu'on renvoie les Syriens dans leur pays. Parce qu'il y a, sur les 2 millions de Syriens, je crois, qui sont arrivés, ou 1 million, je crois, qui sont arrivés en Allemagne, il y en a qu'un sur cinq qui travaillent. 4 sur 5 reçoivent des subventions et ne travaillent pas. Et certains depuis 10 ans, quoi. La guerre civile en Grèce, c'était il y a 10 ans. En Syrie, c'était il y a 10 ans. Donc, à un moment dans les années qui viennent, on ne va plus pouvoir emprunter. Et donc, il va falloir faire des coupes dans ces transferts. Alors, les retraités, les infirmiers, tout ça, je vois pas pourquoi on devrait couper, mais il va se poser de façon très nette, et ça n'est pas être raciste, hein, il va se poser de façon très nette, est-ce qu'on continue à payer des gens?
Mais nous n'avons plus les moyens de payer ce système social qui est imposé depuis un moment par une certaine gauche, au détriment des Français qui travaillent. Mais encore voilà. Une fois, on a tous en tête cette image de la Révolution française avec le tiers-État qui portait sur son dos la bourgeoisie, le clergé
et la noblesse.
Et c'est un petit peu le sentiment que ça donne pour les gens qui payent l'impôt sur le revenu. Avec, par ailleurs, des écoles qui fonctionnent de plus en plus mal, des hôpitaux où on est capable d'attendre 48 heures sur des brancards avant d'être soigné. On l'a tous vécu. Pour finir, se dire « bon, bah, finalement, je vais aller dans le privé parce que je peux me le payer, mais est-ce que c'est bien normal ?»
Non, c'est pas normal.
Et tout est à l'avenant.
Donc le vrai problème, c'est que ce qui va se passer, c'est que dans les 2-3 ans qui viennent, je sais pas très bien parce que je suis pas Madame Irma, encore une fois, mais ce qui va se passer, c'est tout à fait inévitable, c'est qu'il va falloir que la population française décide de qui va prendre l'énorme baisse de pouvoir d'achat qui se profile. Imaginons qu'on continue dans les transferts à l'heure actuelle. À ce moment-là, mettons qu'on ait 80% de la richesse qui soit créée et 20% qui sont empruntés. Du pouvoir d'achat. 80% du pouvoir d'achat, 20% qui sont empruntés. Eh bien, si on fait rien sur les 20%, on pourra plus. Donc, notre niveau de vie va baisser de 20% pour l'ensemble de la population. Et il faudra se poser la question à ce moment-là. Est-ce qu'on aménage cette baisse dans la population au détriment de ceux qui ne travaillent pas ou pas? Et si on ne le fait pas, il y aura une baisse de 20% de toute la classe administrative, de toute la classe des soignants, de toute la classe de tout ça.
Déjà, on est, si tu veux, et on l'a vu, bon, les chiffres que tu m'avais donnés la semaine dernière sur la retraite n'étaient pas vrais, mais il se trouve que avec les transferts sociaux, on peut être parfois à des jonctions où des gens vont toucher ou alors des allocations de parents isolés, ce genre de choses, 900 à 1000 euros par mois, et c'est exactement ce que va toucher quelqu'un avec une petite retraite. Donc il arrive des personnes qui vont être à un SMIC qui débute, tu vois, ou en temps partiel, 4/5. Donc tu te dis, quelquefois, on ne rémunère pas assez le travail par rapport au transfert social. Donc on arrive véritablement...
Et surtout, on interdit... une distinction. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le fameux pouvoir d'achat des hommes politiques, s'ils ne prennent pas des décisions extrêmement courageuses, etc., eh bien, le niveau de vie des Français qui ne sont pas dans le secteur privé, et encore dans le secteur privé, tous ceux qui travaillent qui vendent à la consommation française vont avoir une baisse de leur niveau de vie. Le secteur privé qui sera protégé, c'est celui qui exporte. Parce que là, on continuera à vendre à l'étranger. Les gens qui travaillent chez Airbus, ils vont pas déguster, tu vois, c'est pas...
Oui, enfin, ils vont pas déguster jusqu'à temps que on décide pas de leur mettre une prime exceptionnelle de contribution budget de l'État, qu'on décide pas d'augmenter encore une fois les tranches d'impôt sur le revenu, parce que encore une fois, je regardais hier des militants qui disaient les dépenses publiques. Il me sortait un graphique. Les dépenses publiques n'ont pas augmenté. Elles sont constantes depuis 1980. Le type, il me sortait un graphique. Les dépenses publiques étaient comme ça.
Je sais où il sort, ce graphique. C'est simplement les dépenses publiques du système régalien. Donc, ils te disent...
Il a viré le territorial,
Il a viré le territorial et il a viré les transferts sociaux. Voilà. Donc, il te dit, dans le fond, l'État, il coûte pas cher. Mais c'est vrai, aujourd'hui, l'État, le système régalien, je crois qu'il coûte 5% du PIB.
La justice, 11 millions. À côté de ça, les transferts aux associations, 23 milliards. Ouais. C'est ce que je disais la semaine dernière. On a deux dans ces associations qui ensuite prennent la gaieté lyrique et ce genre de trucs pour y coller des migrants. Ces associations-là ont deux budgets de la justice. La justice, évidemment, est à l'os. Je veux dire, on a tous mis 5 ans, en général, pour sortir une décision de n'importe quel...
Un petit procès en diffamation, il est traité, vous avez une chance...
3 ans,
5 ans. Je viens d'en connaître un, c'était 6 ans. Quelqu'un que j'aime bien, qui avait été diffamé, il a fallu 6 ans. Donc, si j'ose dire, dans la région où il était, il a perdu son honneur. Tout le monde l'engueule en lui disant qu'il a été, et puis c'était la diffamation. Les gens étaient punis 6 ans après. Une justice qui est trop lente cesse d'être une justice.
Mais bien évidemment, surtout sur des histoires comme ça. En 6 mois, tu devrais l'avoir, ta décision.
Ben voilà.
En référé ou.
Donc,
je
ce que
sais.
Je veux dire aux hommes politiques qui nous écoutent, il y en a peut-être certains, c'est. Il faut que vous vous concentriez sur la création de valeur par le secteur privé et l'arrêt des transferts sociaux injustifiés. Voilà, c'est... Alors là, je vous montre ce qui va se passer. C'est un graphique qui va apparaître à l'écran. C'est pouvoir d'achat des gilets jaunes et pouvoir d'achat du salaire moyen. Alors ce que j'essaye d'expliquer dans le papier, c'était de lundi, c'est ça ? C'était... Vous avez... J'ai cassé la population française en deux, là. Ceux qui sont vraiment à l'os, qui sont vraiment pauvres, enfin, tout proche de la pauvreté. Je dis, c'est les gens qui sont au SMIC, mettons, vous voyez.
C'est pratiquement tout le monde paysan.
Mais tout le monde paysan, voilà. Et ces gens-là, je le sais d'expérience, quand vous êtes vraiment fauchés, quand j'étais aux États-Unis, j'avais un tiers de mon budget qui allait à la bouffe, un tiers au logement et un tiers à l'énergie. Et puis, à une fois que j'avais payé ces trois-là, j'avais plus rien. J'étais à sec.
On se bouffait les doigts.
C'était à l'époque, imagine-toi que c'était à la fin des années 60, notre budget nourriture était de l'ordre de $10 par semaine.
Par semaine.
C'était pas... Donc les gens pauvres, ils s'en foutent du prix des téléphones, tu vois, ou du prix du train, parce qu'ils ne le prennent pas, ils n'ont pas d'argent. C'est l'essence, c'est la bouffe. Et c'est le
chauffage,
le logement, voilà. Et donc j'ai bâti un indice en prenant les composantes de l'INSEE, ce que j'appelle l'indice des prix pour le gilet jaune, où je ne prends que ces trois facteurs-là. Ces trois facteurs-là, depuis le début de l'euro, ils montent à peu près de 3% par an. Mais le salaire, le SMIC, il est monté en fonction de l'indice des prix, qui est lui monté de 1,7. Donc ça veut dire qu'ils ont une baisse de leur niveau de vie. Si tes revenus augmentent, de 1,7 et que tes coûts augmentent de 3% et que tu es déjà à l'os, bah, tu finis par être vraiment à l'os. Donc les pauvres en France, appelez-les par leur nom, ceux qui sont pauvres, ont eu une baisse de leur niveau de vie depuis l'arrivée de l'euro d'à peu près 12%. C'est gigantesque parce qu'ils étaient à l'os hein, dès le départ. Hein, Ensuite, je prends la classe moyenne, je prends le salaire médian, c'est-à-dire le salaire moyen français, pas moyen tout à fait, mais fait. Et cette fois-ci, je divise par l'indice des prix. Donc, et à ce moment-là, je me rends compte que la population moyenne a eu un niveau de vie qui est passé de 100 à peu près à 117 de 2000 à 2010 à l'arrivée de Macron. Et depuis l'arrivée de Macron, on est à plat. Ça monte plus. Ça fait donc 7 ans que le français moyen a une stagnation de son niveau de vie. Mais si on a une récession, il y en a tout un tas qui vont passer dans la catégorie pauvre. Parce que le chômage va monter, on est déjà dans une récession. Mmh. Hein. Donc ça veut dire que maintenant, il y a les deux tiers de la population française qui ont une baisse de leur niveau de vie, certainement depuis 7 ans, et pour beaucoup d'entre eux, depuis 24 ans. Et il y avait un philosophe que j'aimais bien, John Rawls, R-A-W-L-S, Rawls, à Harvard, qui disait que dans une société, il a beaucoup travaillé sur les questions de justice. Qu'est-ce que la justice ? C'est un problème extrêmement difficile. Et lui, sa thèse, c'était que dans le fond, une de ses thèses, parce qu'il en avait plusieurs, une de ses thèses, c'était qu'une société est injuste si... sur le moyen terme, si les plus riches deviennent plus riches et que les plus pauvres deviennent plus pauvres.
Bien sûr.
Or, c'est exactement ce qui s'est passé en France depuis 20 ans et 7 ans. Donc, ça veut dire que notre société est injuste, aujourd'hui, et de plus en plus. Et ça rejoint un autre truc, c'est que non seulement elle est injuste, mais les gens qui sont au pouvoir sont légaux, mais non légitimes. Mmh. Et c'est de cette société injuste plus d'un pouvoir légal mais non légitime, que naissent toutes les grandes révolutions. Parce que les gens disent, il n'y en a pas le cul, quoi. Ça ne va pas du tout, ça ne marche pas du tout. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que comme en France, on n'a pas du tout des systèmes aussi bien huilés que dans le monde anglo-saxon, on ne peut pas virer nos élites. Enfin, c'est très difficile parce qu'ils ont tout bloqué. La France est contrôlée par son État. Et à partir du moment où l'État est lui-même contrôlé par des gens que tu ne peux pas déboulonner...
Oui.
Bah, t'es dans une situation révolutionnaire par définition.
Inextricable.
Inextricable. Donc ce que disait un grand penseur aussi, que je recommande d'ailleurs, qui s'appelle Toynbee, dans un livre qui s'appelait L'Histoire, ou qui avait été A Study of History en anglais, il disait que quand des problèmes se posent à un pays et que les élites sont incapables de le traiter, il n'y a que trois possibilités. La première, c'est qu'on change les élites. C'est ce qu'on vient de voir aux États-Unis. Hein. Ils sont en train de changer les élites.
Oui, boum, oui, oui, un grand coup de pied dans le derrière.
Un grand coup de pied dans le derrière, mais légalement.
Oui, oui, oui. Bah, oui, c'était le principe de l'élection.
En 1830, en 1848, en 1870, c'est toujours passé à grand coup de pied dans les fesses. Hein.
C'est quelque chose. Il y avait une chronique de Mathieu Boccoté il y a deux semaines, je crois, qui disait qu'en France, on avait un rapport quelque part à la politique, et c'est assez vrai, passionnel. On ne pouvait absolument pas passer par la rationalité, et quelque part, les autres pays nous regardent toujours justement en se disant qu'est-ce qui va encore se passer de complètement fou et complètement hors cadre en France, c'est-à-dire que Edmund Burke, quand il regardait les prémices de la Révolution française...
Il avait parfaitement analysé, il avait dit tout ce qui allait se passer, et ça s'est passé comme il le disait.
Et ça s'est passé, et il n'y a qu'en France qu'on a fait ça. Bon, un petit peu en Angleterre, où ils en ont raccourci deux, trois, mais...
Oui, mais c'était bien avant, ça. C'était à l'époque, c'était pas encore une démocratie. L'Allemagne aussi a des problèmes un petit peu aussi avec les transitions de ses élites, c'est pas toujours parfait, pour dire le vrai. Donc, ce que j'essaie de dire là, c'est que, bon, alors, changement du personnel politique. Le deuxième, c'est un changement de régime. On fait sauter la quatrième et on crée la cinquième avec De Gaulle. Bon, ça va.
C'est un peu une présomption fatale aussi.
Absolument, tout à fait. Ben, les Français, oui. Ceux qui sont en haut passent leur temps à expliquer qu'ils font très très bien le travail et qu'il n'y a aucun problème. Et ils sont très contents puisqu'ils pètent dans la soie. Mais les gars en dessous, ils disent... Mais
et ils se reprennent les uns avec les autres. Là, on nous parle de...
On ne veut nous ramener pas Bayrou.
Oh, non mais...
on va nous ramener Bayrou de secours, comme disait je ne sais qui, parce que j'ai trouvé ça très bon comme jeu. Mais Bayrou, c'est quand même, quand il a été au plan, le plan existe toujours en France, le plan.
Le gars, il est là d'aussi, enfin, je sais pas, d'aussi loin que je me souvienne, je voyais Bayrou, quoi.
Ouais, qui, ouais, j'ai jamais bien compris. Toujours en train d'essayer de devenir quelque chose. Mais ce qui avait d'étonnant, c'est donc, le plan, si vous voulez, je crois que il a multiplié par 7 le budget du plan. Pour ne rien faire. Je crois que c'était quelques centaines de milliers d'euros, le budget du plan, c'était devenu un truc complètement mort. Et maintenant, c'est plusieurs millions d'euros. Donc, et il n'a rien sorti. Donc, c'est ce gars-là qui doit couper les frais. Enfin, on se dit, c'est n'importe quoi. Bon.
Je crois que la ville de Pau est en déficit et a doublé deux fois.
Il a augmenté les dettes de 60 millions.
Oui, c'est ça, voilà.
Donc, il nous a fait une Hidalgo. Et puis, c'est très laid, en plus. Pau, qui était une ville charmante, maintenant, ça ressemble à une zone. Et la troisième solution, c'est ce qu'on a vu. Les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, c'est la fin de la civilisation de l'époque, telle qu'on est, ou bien quand les Arabes sont arrivés en Égypte ou dans tout le Moyen-Orient, ça a été la fin de la civilisation chrétienne là-bas, quoi. Et l'épuration ethnique, donc, parce qu'il n'y a plus de chrétiens maintenant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la France va maintenant, à l'évidence, où il faut changer les élites, où on va avoir un changement de régime. Où il n'y aura plus de France d'ici 20 ans. Quoi. C'est à peu près ça, la civilisation française aura disparu.
Alors, ce dont on a très peur et dont on a beaucoup parlé, c'est effectivement, avec ce genre de personnalité, une sorte d'accélération vers un fédéralisme européen qui nous pend au nez.
Mais tu as vu, en Allemagne, ils sont comme des fous. Il va y avoir des élections.
J'aurais aimé transiter, vers l'Allemagne pour ouvrir un petit peu le débat sur ce que va nous donner 2025. Alors, on a vu que des élections vont être anticipées, puisque Olaf Scholz a perdu la confiance de son gouvernement. Par ailleurs, pour ceux qui nous suivent, on vous avait fait un dossier sur lequel je vous renvoie sur l'Allemagne, en expliquant qu'effectivement leur marge brute d'autofinancement était aussi à l'os, que l'euro les amenait aussi dans cette situation.
Et les imbécilités qu'ils ont fait
avec l'énergie.
Avec l'énergie et les miroirs magiques. Maintenant, ils refont du charbon en Allemagne, c'est pour vous dire si c'était malin.
Voilà. Mais en attendant, comme disent les Anglais, ils sont « stuck between a rock and a hard place » pour le temps qui est, donc ils sont littéralement à un endroit.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent dans une situation qui est pas bonne, mais qui est moins mauvaise que la nôtre, et que les Allemands, les autorités allemandes, enfin les chrétiens démocrates qui représentent un peu la droite, ont comme objectif de resserrer les boulons comme des fous en Allemagne.
Oui, d'épargner comme des fous.
Et que la grande incertitude, ce qu'elle va faire à l'AFD, qui est un peu plus à droite que le Rassemblement National, ce qui n'est pas très dur d'ailleurs. Et donc, la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer aux élections? Mais si la France continue à ne pas prendre de décision de contrôle de ses dépenses étatiques et que l'Allemagne se met à les contrôler comme une folle, ça ne peut pas marcher, puisqu'on est dans la même monnaie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que dans le cas de la France, la monnaie devrait s'écrouler. Dans le cas de l'Allemagne, la monnaie devrait monter. Mais, je vois pas comment ça peut se passer. Il peut pas y avoir. Mettons que l'Allemagne, la France dépensait, et l'Allemagne dépensait un peu moins. Ça allait pas terrible, mais ça allait. Mais à partir du moment où l'Allemagne cesse de dépenser, et nous, on continue à dépenser, on peut plus être dans le même taux de change. Je vois pas comment c'est possible.
En tous les cas, ça va être difficile avec les mêmes taux.
Mais oui, il ne peut pas y avoir des taux d'intérêt. Si nos taux montent de
Et
façon
si nos taux montent, je ne vois pas comment on va financer l'intérêt de la dette, sachant qu'encore une fois, on est à 60 milliards. Alors, je vous avais exposé dans une émission, il y a 2-3 émissions, comment trouver 50 milliards rapidement. Encore une fois, c'était une émission sur comment trouver 50 milliards pour payer les intérêts de la dette. Ce n'était pas une émission sur couper les réformes structurelles, ce qu'on pourrait faire aussi dans un deuxième temps. Là, c'était juste pour trouver des liquidités relativement rapidement. Voilà.
Sans augmenter les impôts, parce que plus vous. Comme on est du mauvais côté de la courbe de l'affaire, ce que j'ai essayé d'expliquer aussi, si on augmente les impôts, les rentrées fiscales vont baisser.
Oui. Mais ça, ils sont beaucoup trop. Sans compter qu'on va avoir une baisse aussi des rentrées fiscales, puisqu'il y a des défaillances d'entreprises, en veux-tu, en voilà.
Mais voilà. La baisse des rentrées fiscales, elle a commencé, ça veut dire la récession. C'est-à-dire. Et à ce moment-là,
la Caisse des dépôts et consignations nous a expliqué qu'il n'y aurait pas de récession, ce qui nous fait hurler de rire parce qu'on est évidemment.
On est déjà dedans.
Donc les mecs sont au milieu de la mer Rouge et ils disent non, pas du tout.
On est toujours sur la terre ferme. Il n'y a pas de problème. Mais donc vous avez ça, vous avez cette contradiction. Vous avez l'impossibilité de monter les taux en France sans ça, le système explose. On arrive à la fin des capacités d'endettement de notre pays. Et les gens vous parlent du maintien du pouvoir d'achat. Mais ce qu'ils avaient un petit peu de courage, ils tiendraient le discours de Churchill en 1940, du sang et des larmes. Il leur a dit, écoutez, ça va être dur, mais on va gagner. Et il leur a dit, il y aura du sang et des larmes. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où, pour sauver notre pays, il faut qu'il y ait pas du sang et des larmes, mais en tout cas des larmes, quoi. Ça veut dire tous ces gens.
Moi, c'est ce qui m'affole absolument structurellement quand je regarde les débats à l'Assemblée. Là, si tu veux, on a eu des 49-3 sur des histoires d'indexation de retraite. Alors, je comprends qu'ils essaient de faire attention à leur électorat et sachant qu'il y a des...
Mais non, ils ne peuvent pas, il faut leur dire la vérité.
Mais il faut leur dire la vérité aux Français. Au bout d'un moment, on n'en est plus à se poser la question. Bien sûr qu'on ne peut plus indexer les retraites, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus dépenser pour faire ceci ou cela. Là, il faut juste dire, écoutez, il faut quelqu'un qui fasse des coupes. Et ce n'est pas des petits trucs à la marge. Là, c'est vraiment mettre tout à plat et il faut couper dans absolument tout. Il n'y a pas un endroit où on ne coupera pas.
D'abord, il faut couper dans les endroits... Où il y a du fraude, du gaspillage ou de la criminalité.
Donc tout ce qui est transferts sociaux, ça...
Tout ce qui est transferts sociaux, c'est
évidemment qu'on ne va pas couper dans les infirmières, déjà elles sont deux.
Oui, c'est les pauvres. Non mais c'est pour ça, ça devrait être l'objet d'un transfert, d'une discussion nationale, et pour qu'on puisse avoir une discussion nationale, il faudrait aussi qu'on ait les chiffres, c'est-à-dire qu'il y ait un audit des dépenses de l'État, que les Français sachent où va leur pognon. Mais ça... Tous les gens réclament et on ne réussit pas à l'avoir. Donc, première condition. Et deuxième condition, s'il faut faire des coupes sociales graves, ça devrait se passer par la voie d'un référendum. Il n'y a personne qui a la légitimité en France pour aujourd'hui faire couper ces trucs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut littéralement redonner de la légitimité à ceux qui prennent ces décisions.
Oui.
Mais on ne peut pas demander à M. Macron maintenant qui emmène 3 avions à Maroc.
Monsieur Bayrou qui a pris hier un faucon.
Pour aller, comme s'il n'avait pas pu faire un truc zoom.
En plus,
je veux dire, s'il avait besoin de prendre un avion, qu'est-ce qu'il est allé foutre à Pau? Prendre un avion, alors qu'il suffit d'organiser une conférence Zoom, et puis ça...
Il me semble aussi, et puis s'il y a des documents...
On serait économisé 45 000 euros à la France, quoi, c'est tout.
On te les envoie en chronopost, et puis voilà.
Comme ça,
il te laisse un avis de passage.
Oui. Non, mais en plus, on peut mettre, avec Zoom, tu peux mettre les documents qui apparaissent sur un jour.
Je sais.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, cette histoire de maintien du pouvoir d'achat, c'est devenu une espèce de leitmotiv. Et je peux vous dire tranquillement aux gens qui nous écoutent, il n'est pas possible de maintenir le pouvoir d'achat de la population française dans les années qui viennent. Ça n'est simplement pas possible. Donc, il faut dire aux gens, on a fait beaucoup de bêtises. Vous virez tous les gars qui ont fait ces bêtises, et maintenant, on va se retrousser les manches et on va s'y mettre tous ensemble. Mais on ne peut pas continuer à prétendre qu'on va à la fois ne pas dire la vérité aux Français et avoir un maintien du pouvoir d'achat, ce qui est une façon de leur mentir. Donc, ce que je dis aux gens, c'est cesser les mensonges, c'est fini les mensonges.
Oui, tu as tout à fait raison.
Et moi, j'ai fait un appel vibrant pour qu'on dise la vérité aux Français. Ça ne va pas être agréable, mais c'est très difficile pour ceux qui ont menti, qui ont triché, qui ont volé dans les caisses, etc., de dire la vérité, parce que pour eux, moi, tous mes amis politiques, ils me disent, mais Charles, s'ils disent ça, je ne serai jamais élu. Mais le problème, c'est plus que tu sois élu, mon grand. Le problème, c'est de sauver notre pays, quoi. On s'en fout qu'ils ne soient pas élus. C'est vrai que t'as dit que des conneries depuis 30 ans.
Alors, j'ai entendu hier une idée comme ça, qui a été posée, de dire, tu sais que Donald Trump a parlé de faire une réserve fédérale de Bitcoin. Ce qui, en soi, t'avait paru une idée un peu saugrenue, puisque, à la base, on ne fait des réserves que, par exemple, pour l'essence ou des choses qui vont manquer. Donc, déjà, c'était un peu abscon. Pourquoi ils voulaient faire ça? À part...
Et puis, en déficit. Tu comprends que la Norvège qui vend son pétrole, qui a du pognon, de savoir qu'en foutre, fasse des réserves avec ce pognon pour le jour où il n'y aura plus de pétrole. Et bon, ils prennent du pognon qui existe et ils investissent dans des activités qui sont rentables. Bon, je trouve ça très bien. Mais à partir du moment où tu as un déficit monstrueux, tu vas quoi, emprunter des dollars littéralement ou en créer à partir de rien pour créer, pour acheter du Bitcoin? Alors, ça veut dire que tu crois que le Bitcoin va monter beaucoup plus que le dollar, ce qui est bizarre.
Alors Sarah Gnafo a dit qu'elle voulait que la Commission européenne, enfin que l'Europe fasse une réserve stratégique. Bah oui, de Bitcoin.
Elle comprend rien cette chère enfant.
Et l'autre chose que je comprends pas aussi, c'est que si on fait ça encore une fois, ça nous pousse vers un fédéralisme européen.
C'est-à-dire oui, comment répartira le Bitcoin?
Comment répartira le Bitcoin entre pays? C'est-à-dire, déjà, on a une monnaie qui nous a servi. Et quelle est l'idée de mettre une seconde monnaie
c'est
avec des taux de change qui seront aussi bloqués entre pays, puisque...
entre pays? Donc ça veut dire simplement que Mme Sarah Gnafo est favorable à donner plus de pouvoir de décision sur notre pognon à Mme Van der Leyen.
Ce que je trouve pas très cohérent.
Mais j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement cohérent ce qu'elle dit d'ailleurs.
Alors évidemment, toute la communauté Bitcoin trouve ça formidable parce que
mais ils sont cons, si je peux me permettre, parce que l'intérêt du Bitcoin, c'est que l'État rentre pas dedans. Moi, je veux que l'État devrait être interdit de Bitcoin parce que c'est une protection contre l'État. Donc, à quoi ça vous sert d'avoir c'est comme les gars, c'est à peu près aussi bête que de dire aux gens. L'État français est ruiné, donc je vais pas toucher ma retraite. Je vais beaucoup épargner et je vais confier la gestion de ma retraite à l'État français. Je dis, mais vous allez pas bien, les mecs. Et c'est exactement ça. Ce que madame Tinfo fait, c'est de dire, donc, on va épargner, on va filer notre épargne à l'État qui va acheter des bitcoins. Et pourquoi vous achetez pas les bitcoins si elle veut avoir des bitcoins, qu'elle en achète? Mais surtout qu'elle ne demande pas à l'État.
Bah, c'est ce que je trouve aussi.
Achetez-en, bah, allez-y.
C'est drôle, c'est un peu
comme...
Mais
ne demandez rien à l'État, surtout plus rien. Il faudrait que Mme Gnafo comprenne que l'État, ça n'est pas une poire pour la soif. L'État, c'est un coût et c'est tout.
Alors, puisqu'on était parti un peu sur les États-Unis, on a vu récemment combien les États-Unis, avec simplement 4% de la population mondiale, a environ un quart du PIB et un tiers des bénéfices mondiaux. Et ça représente désormais plus de deux tiers de la capitalisation de l'indice MSCI World.
C'est-à-dire qu'on
on a quand même, là, pour moi, un problème de répartition.
C'est tout à fait exact. Alors là, c'est aussi... Mais là, c'est une question plus financière.
Plus financière, mais comme on est en troisième partie...
Aujourd'hui, si vous voulez, les États-Unis donc, ont à peu près 33% des bénéfices qui sont faits aux États-Unis, et la valorisation de ces bénéfices est de 72% de l'indice mondial. C'est-à-dire, ce que les marchés des actions sont en train de vous dire, c'est que 25% du PIB mondial va faire... trois fois plus de bénéfices dans les 30 ans qui viennent que les 75% du reste de la population mondiale.
Mondiale. Mais je
ce qui est idiot. Ce qui est simplement pas possible mathématiquement. Et j'avais connu ça une fois dans ma carrière, c'est pendant la grande bulle japonaise, en 90.
C'est ça, c'est le marché japonais qui avait fait ça à l'époque.
Qui faisait 52% du marché mondial, alors que les Japonais devaient représenter 1% de la population. Et j'avais écrit toute une série de papiers en disant c'est idiot, c'est une bulle. Donc
là, on est quand même sur le marché américain, sur une énorme bulle.
On est sur une énorme bulle, mais en plus, on est sur une énorme bulle, mais qui est que sur 7 ou 8 valeurs.
C'est-à-dire c'est-à-dire que ça n'est même pas dans les valeurs structurelles.
C'est pas tout le marché qui a monté. C'est 7 valeurs qui sont...
Nvidia, Microsoft...
C'est 7 valeurs. Donc, si tu prends par exemple l'indice Standard & Poor's 500, dans lequel il y a 500 valeurs et qui est capitalisé en fonction de la capitalisation... Il est monté, je crois, 30% l'année dernière, quelque chose comme ça, les 12 derniers mois. Mais si tu prends l'indice Standard & Poor's 500, les mêmes valeurs, mais un 500e dans chaque valeur, c'est-à-dire equally weighted, c'est-à-dire pareil, il est monté que 13 ou 14. Donc ça veut dire que t'as pas gagné tellement d'argent à Wall Street l'an dernier, sauf si c'était... Et n'importe quel gérant de qualité ne mettra jamais les pourcentages, ne mettra jamais... 35% de son portefeuille en cette valeur, tu vois, parce qu'il va diversifier. Donc ça veut dire que c'est encore une fois le résultat de l'indexation. Il n'y a que l'indexation qui est assez bête pour continuer à acheter. Nvidia, je crois, est à 30 fois ses ventes, ou je ne sais pas, un truc complètement dégueulasse. Donc, on est aujourd'hui devant une situation qui est classique, où pour des raisons X, Y ou Z, il y a eu plus d'argent que de crétins, et ce plus d'argent est allé massivement dans les trucs indexés. Et donc, la meilleure pour ceux qui veulent rester aux États-Unis, je comprends
dans
votre
les valeurs.
Mot, dans les valeurs, il vaut beaucoup mieux acheter le Standard & Poor's 500
diversifié
à 500, où chaque valeur
equally
weighted que l'autre, parce que l'autre, vous avez une espèce de prime de valorisation qui est grotesque. Donc, si vous voulez acheter les États-Unis parce que vous trouvez que vous aimez bien Trump et ça va mieux marcher, très bien.
Ou alors, dans ces cas-là, tu peux tenter, je sais pas, une belle valeur comme Schlumberger. Ou...
Tu peux te faire un portefeuille de 400 valeurs que t'aimes bien ou 10 valeurs que t'aimes bien.
Qui ne sont
mais
pas,
si tu veux acheter
qui ne sont pas étrangement surcotées aujourd'hui.
Tu achètes certainement pas en fonction de la capitalisation parce que c'est idiot.
Elles sont grotesques en ce moment. Et tu penses, bah, évidemment, on peut pas prévoir quand est-ce que cette bulle va se.
Mais je vais faire une remarque ici qui est très intéressante parce que je lis certains, comment je lis, j'ai lu les commentaires qui apparaissent sur nos sites là. Et ce qu'on essaie de faire avec Didier, c'est de la gestion du risque.
Oui.
Bon, la gestion du risque, c'est une notion très importante. Et donc, ce qu'on dit, c'est que, ce qu'on fait, c'est que nous, on dit, le risque apparaît dans les marchés quand il y a ce que j'appelle un ursus magnus qui se déclenche. Là, c'est là où on perd 50, 60, 70% et ça fait très mal.
Mais ce que d'autres peuvent appeler une sorte de black swan aussi.
Un truc arrive.
C'est l'énorme...
L'énorme gamelle. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens nous disent immédiatement, mais quand est-ce qu'il va se passer? Je leur dis, j'ai pas la moindre idée. Ils me disent, mais alors pourquoi vous en parlez? Parce que je peux repérer, en regardant un certain nombre de choses, les conditions qui doivent être réunies pour qu'on ait un ursus magnus. Et alors ce que je dis aux gens, je les repère, et je mesure, j'essaye de mesurer la distance où nous sommes par rapport à l'ensemble des conditions. Mettons que l'ensemble des conditions soit là et que nous soyons là, plus je me rapprocherai des conditions, plus le risque augmente. Mais c'est-à-dire, je vais dire, il va y avoir une avalanche. Mais je n'ai aucun moyen de savoir si ça va être une avalanche de...
L'aventure ne sait pas d'où elle va partir.
Va être une avalanche qui va faire 1 km, qui va faire 12 km, tu vois, donc ça va être un petit truc qui pète. Et donc ce que j'essaye de dire aux gens, c'est plus vous vous rapprochez de la probabilité d'un ursus magnus, plus moins vous devez avoir d'action, ou d'obligation si c'est un ursus magnus, dans les obligations. Et donc tu essayes de gérer ton risque... non pas en fonction de la volatilité du portefeuille, mais de la probabilité d'arriver de quelque chose de très gros. Et c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, c'est pour ceux qui s'intéressent, je dis, la probabilité d'un ursus magnus dans les actions n'est pas forte. Donc on peut garder les actions. La probabilité, d'après les calculs qu'on fait, d'un ursus magnus dans les obligations, il a commencé d'ailleurs, cet ursus magnus, est très forte. Donc, vous avez entendu dire depuis un an et demi, mais si vous voulez des actions, vous en avez, mais vous n'avez pas d'obligations. Sauf les obligations chinoises, bien sûr. Mais donc, ce que j'essaie de dire, c'est que, et les gens me disent, mais vous parliez déjà de la probabilité d'un ursus magnus il y a 5 ans. Ben, je leur dis oui, puis ça ne s'est pas passé. Mais le fait, parce qu'ils sont repartis dans l'autre sens. Donc, le fait que je devienne prudent quand on s'en rapproche, et que ça ne soit pas passé, ben oui, alors.
Bah, du coup, vous n'avez pas été pris dans l'avalanche.
Oui, ben, elle n'a pas eu lieu, mais ben, tant mieux. Mais à partir du moment où ça s'est écarté, on est revenu dans les actions. Tu vois, c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a une espèce de demande pour que je vous dise que le prochain krach va commencer le 21 juillet à 3h30 de l'après-midi. Mais c'est pas ça l'analyse de risque. Ça, c'est n'importe quoi. L'analyse de risque, c'est est-ce que les conditions... Parce que les conditions pour qu'il y ait une avalanche, ou pour qu'il y ait un raz-de-marée, ou pour qu'il y ait un tremblement de terre, ou pour qu'il y ait un grand bear market, sont toujours les mêmes. Il y a un certain nombre de choses qui se passent. Eh ben, ça fait rien. Les gens veulent que je leur dise, un, quand ça va se produire, et deux, de combien ça va baisser. Mais j'en sais foutre rien. Je sais, ce que je dis, c'est
oui,
que...
D'abord, y a des phénomènes de chaîne.
Oui,
tu dis, il y a des conditions d'avalanche.
Oui.
Après, tu sais pas, encore une fois, si elle va être énorme. Tu sais pas s'il va y avoir des gens pris dans l'avalanche. Tu sais pas si, en l'occurrence, une société va être prise.
C'est comme quand t'es à Val d'Isère ou à Méribel. De temps en temps, on te disait, vous traversez pas là parce qu'il y a un risque d'avalanche. Ben, c'est tout ce que j'essaye de faire. Il disait pas qu'il allait avoir une avalanche. Il disait, il y a un risque d'avalanche. Donc, moi, s'il y a un risque d'avalanche, je traversais pas. Et ce que j'essaye de dire, s'il y a un risque d'avalanche, j'y vais pas, quoi.
Est-ce que les gens oublient souvent, en analysant la crise de 29, c'est qu'encore une fois, la crise de 29 n'était pas une crise qui est sortie de nulle part. Ces années-là ont été émaillées de crises.
Et en plus, ça a été toutes les décisions qui ont été prises par les États pendant ces années 29, 30, 31, 32, 30, étaient toutes plus bêtes les unes que les autres.
Voilà, donc
c'est-à-dire que il y a eu à la fois le déclenchement d'une avalanche et l'aggravation de l'avalanche par les gars qui étaient chargés de la gérer, quoi. Donc, comment tu prévois ce qu'allait faire cet animal de Roosevelt qui a augmenté les impôts et qui a dévalué le dollar, quoi. Je veux dire, fallait être con comme un âne, quand même.
Après, Churchill aussi nous a fait des trucs pas mal avant
c'était
la guerre.
Avant.
C'était dans les années 20.
C'était
aussi très bien illustré.
Très bien illustré, donc. Il avait simplement remis la livre sterling en poids d'or au niveau où elle était en 1914. Ben oui, mais ça a foutu toute l'économie anglaise en l'air.
Encore
donc.
Une fois, ces hommes politiques qui ont tendance à penser que la monnaie, c'est leur symbole
de virilité.
Leur virilité.
Ce que disait Mme Thatcher, un problème, c'est que les banquiers centraux sont des vieux messieurs et qui prennent le taux de change pour un symbole de virilité.
Voilà.
Elle était marrante, Mme Thatcher.
Et donc, pour l'année qui arrive, là, tout ce qu'on peut dire, c'est que, si on résume, un, il faudrait des politiques courageuses. Donc, c'est vous dire si avec Bérou, on se sent vraiment en sécurité. Deux, il faut arrêter avec ces histoires de mesurettes du ticket restaurant où on parle d'indexation ou ainsi de suite. En réalité, on n'en est vraiment, vraiment plus là. Il faut véritablement réformer, à la tronçonneuse, il faut vraiment y aller fort. Et parce que le problème, c'est qu'on dit toujours le FMI, mais même le FMI serait trop petit pour nous. Donc,
ils n'ont pas les sous.
Ils n'ont pas les sous, donc en réalité, ça nous précipiterait vers une Europe encore plus fédérale.
Ben oui, mais il faudrait que les autres acceptent.
Mais
les autres accepteront à condition de prendre le contrôle de notre budget.
Ben évidemment.
C'est-à-dire que ce serait une perte totale de souveraineté. Maintenant,
ça ne serait pas que l'Alsace et la Lorraine, du coup. Ça serait, jusqu'au Pays d'Oc.
Jusqu'au Pays d'Oc, oui. C'est ça où ils pourraient reprendre la partie qu'ils avaient pendant quelques années. Là, il y avait d'un côté la France occupée, de l'autre côté, comment on appelle ça, la France... Tu sais, ils avaient coupé la France, il y avait la zone...
La France libre ?
Non, il n'y avait pas la France, ça ne s'appelait pas la France libre, ça s'appelait... Ils avaient coupé la France en deux, il y avait... Quand il y avait Vichy, c'est
oui,
ça, oui.
Je ne sais plus comment s'appelait la partie du bas. Le découpage, quoi.
Oui, le découpage, voilà. Donc, et alors, dans vos portefeuilles, ben, ça veut dire encore une fois que le moins vous avez de contrats en Europe... Parce que là où les pertes vont avoir lieu, c'est sur les contrats. Hein. Bah, si j'ose dire, les pauvres retraités, là, qui vont sans doute en prendre plein la tête, c'est pas... Hein. Ils avaient un contrat avec l'État français. Eh ben, ce contrat ne sera pas respecté. C'est pas parce qu'ils le veulent, c'est que c'est parce qu'il n'est pas possible de le respecter. Les avantages qu'on a donnés, les trucs qu'on a promis, on ne peut pas les assurer. Donc, c'est tout, quoi. C'est pas moi qui ai pris ces décisions, mais ce serait de la lâcheté de ma part de dire on va maintenir vos avantages parce qu'on a signé un contrat avec vous. Ben oui, c'est comme nous, on avait signé un contrat que la ligne Maginot empêcherait les Allemands de passer. Manque de peau, ils sont passés ailleurs, mais là, les Allemands vont passer ailleurs encore.
Ah oui, j'avais oublié, mais je voudrais faire un petit point. On a eu une remarquable saillie de Thomas Porcher cette semaine, je te l'avais montré, sur le fait que la dette n'était pas un problème, parce que point numéro un, il suffisait de vendre tous les joyaux de la couronne. En gros, je te la fais courte, c'est-à-dire tous les biens publics et ainsi de suite. Alors déjà, un, à qui ? Et deux, ensuite, les gens, on les met où ? Parce qu'une fois que tu as vendu la mairie, imaginons, tu as vendu la mairie, tu as vendu le truc
on
de la région...
On peut les foutre à la Défense, il y a de la place.
Voilà, non mais si tu veux, il y a un moment où tu te dis d'accord, tu vends les
mais
hôpitaux
plus,
publics.
Mais c'est pas à eux.
Mais c'est pas à eux, encore une fois, la notion de propriété,
C'est pas à eux. De quel droit veulent-ils prendre je sais pas quoi, ma maison à Avignon, c'est peut-être que j'habite.
Ah non, ils veulent prendre les biens publics et vendre les biens publics. Du style, pourquoi pas vendre le château
mais
de Versailles, tu vois.
On a calculé la valeur de tous ces trucs-là quelque part. Je crois que les actifs publics devraient faire. Je dis une bêtise, mais même pas le quart de la dette, quoi.
Et le stock d'or ?
Ben, le stock d'or, oui, mais il fait un tout petit quelque chose, quoi. Oui. Mais le jour où on n'a plus le stock d'or, la monnaie française devient incotable. Mm. C'est un peu la bouée de sauvetage, quoi.
Oui, c'est un peu tout ce qui nous reste pour avoir l'air un peu crédible dans le monde.
Ben voilà. Donc, mais tout ça, si tu veux, c'est l'idée. Les actifs français représentent 55 000 milliards d'euros, je ne sais pas quelle bêtise. Oui, mais ce n'est pas vous. Et si vous les vendez à qui? Et si vous cherchez à vendre de stocks de maisons français, dans lequel il y a des Français qui habitent, et c'est à eux, normalement, le pognon doit aller à eux, pas oui. à l'État.
Oui, bah, si tu fais une expropriation, comme ils ont fait à l'époque des grands barrages, il fallait effectivement racheter, bon, pas très cher, mais en tout cas un prix, la maison des gens que tu chasses de chez eux. C'est
oui,
quand même
le
minimum.
C'est acheté, tu leur as fait un village à côté. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Tu vas prendre les maisons de tout le monde, quoi. Et puis...
Et puis encore une fois, en disant ça, ils n'envisagent aucune réforme. C'est-à-dire, ils disent
on va continuer à dépenser.
On va continuer à dépenser, bien évidemment. Donc mais tu te dis, une fois que vous avez vendu, vous faites quoi en année N+1, N+2, N+3, parce que vous n'aurez pas des buildings à vendre
tout
votre
temps.
Vie.
Mais en plus, ce qui m'embête, c'est que les marchés, c'est fait à la marge. Bon, tu dis par exemple, une maison à Toulouse qui se vend, ça vaut
200 000 euros, allez.
Allez, 200 000 euros, j'en sais rien. Et comme il y a 10 000 maisons à Toulouse, tu multiplies 10 000 par 200 000 euros et ça te donne la valeur des maisons à Toulouse, j'en sais rien. Mais ça, c'est parce qu'il y a une maison qui s'est vendue. Mais si toutes les maisons de Toulouse...
Tout à coup, elles vont passer à 80 000 euros, 60 000 euros.
Enfin, pour qui va les acheter? Mais il n'y a personne qui a assez de pognon.
Trading sardines. Et l'offre et la demande, si personne... Enfin, je veux dire,
d'un seul coup, c'est comme...
Je sais pas si les Chinois ont envie d'aller s'acheter une maison à Toulouse, tu vois.
Ben non, puis en plus, pourquoi ils l'achètent rien?
À Muret, tu vois, il n'y a pas
marchés,
une grosse demande.
Mais les marchés sont faits à la marge. Donc, si le cours de LVMH, la capitalisation boursière, est calculée par le dernier cours de LVMH, je sais pas ce qu'il a été hier, multiplié par le nombre d'actions. Mais parce qu'il y a peut-être hier, il y a eu une action de vendue pour se lancer. Donc... La valeur de LVMH dans son ensemble est valorisée par la valeur de cette action. Mais si d'un seul coup, tu as la moitié ou les trois quarts du capital de LVMH qui arrive sur le marché, ben, ça ne va pas être le même prix.
Non.
Donc, c'est des enfantillages. C'est des gars qui ne savent pas faire une règle de trois. C'est des...
Non, mais c'est des gens, encore une fois, qui ont étudié une économie déjà en ne lisant rien de contradictoire, donc en lisant Keynes et Piketty. Et ensuite, qui n'ont jamais eu de ressources appliquées dans leur économie, c'est-à-dire
ils n'ont jamais géré une baraque Afrique.
Et je crois qu'ils n'ont jamais regardé un bilan comptable non plus.
Non, mais ils comprennent pas la notion de prix marginal. Et donc, moi, c'est pour ça que maintenant j'hésite beaucoup à aller dans des endroits où j'ai des débats contradictoires. C'est parce que il faut partir de tellement bas.
Je suis d'accord.
Que j'ai la flemme. C'est-à-dire, et alors, il n'y a que deux possibilités. Ou bien M. Thomas Porcher, que je ne connais pas, juste nul, il dit des bêtises. Ou bien il fait comme les autres politiciens, parce que les économistes officiels, c'est tous des hommes politiques ratés. Hein. Ou bien alors...
Il sait très bien, et donc il est de mauvaise foi.
Et donc il ment. Et alors, c'est très difficile de débattre contre quelqu'un qui ment et qui sait qu'il ment, parce que tu ne sais pas par où l'attraper.
Bah, c'est irritant.
Bah, c'est très irritant. Et alors, ce qui est bête, c'est que je m'irrite, et à ce moment-là, je ne suis pas bon.
Oui, mais parce que t'as envie de leur taper dessus un petit peu.
Mais j'ai envie de leur dire, bon, bah, écoutez les gars...
En fait, je pense qu'il faudrait rester extrêmement froid, mais si tu restes extrêmement froid et didactique...
Mais quand quelqu'un te dit un truc complètement idiot...
Ouais,
ma concierge me dise quelque chose de complètement idiot, je ne le veux pas, mais qu'un type qui a une agrégation d'économie ou je sais pas quoi, et qui dit quelque chose de complètement idiot... Tu te dis, c'est pas possible.
Oui, oui, non, mais c'est très, très irritant. C'est un peu le problème des réseaux sociaux parfois aussi. C'est que, bon, bah d'abord, on a tous nos bonnes et nos mauvaises journées. Et quelquefois, les gens te disent des trucs parfaitement stupides que tu as de mauvaise façon et que tu as déjà expliqué 15 fois. Et oui, c'est irritant. Oui,
oui c'est irritant. Donc, c'est pour ça que l'éducation. À l'école et tout, quand j'étais enfant, c'était quand même le gars qui savait qui en enseignait à des gens qui savaient pas. Et aujourd'hui, on est dans un monde où les gens qui savent rien débattent d'égal à égal avec des gens qui ont passé leur vie à essayer de comprendre quelque chose.
Ben, c'est quand même hallucinant que des... Oui, et même dans les domaines de la finance, tu vois arriver des gamins qui sont pas loin d'être des influenceurs... Hein? Parce qu'ils ont une petite gueule ou ainsi de suite, qui ont genre un blog personnel. Et sous prétexte qu'ils ont un blog personnel et qu'ils ont lu des livres, ils viendraient t'expliquer qu'ils peuvent discourir avec toi. Je lui dis, bah non, tu vas te calmer, Jean-Pierre.
Non, c'est pas ça. C'est pas que je veux pas, c'est que ça me fatigue. Parce que d'abord, donc j'ai remarqué, je pense, enfin je peux me dire que je suis un bon professeur, mais que je suis pas un bon débatteur.
Non, mais attends, d'abord, c'est des métiers différents, et puis tu as tout à fait le droit de ne pas avoir envie de débattre avec des gens qui sont de mauvaise foi, ce qui est souvent
ou
le cas.
Ou incompétents, et qui prétendent qu'ils ne le sont pas.
Oui.
Et moi, quand j'étais jeune, j'allais pas débattre avec Raymond Aron et tout, j'écoutais avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de...
Tu vois, de modestie. Si c'est un mot qu'on peut encore employer de nos jours,
de
la modestie.
Oui, voilà.
Parce que...
Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore?
Je crois qu'on a fait un peu le tour avant notre trêve des confiseurs, parce que le reste des sujets, je vais les traiter pour l'Université de l'Épargne. Voilà.
Encore une fois, merci pour tout. Donc, pour résumer, l'Institut des Libertés, on a commencé par écrire des papiers, qui étaient souvent d'ailleurs des commentaires sur des livres qui avaient été précédemment publiés. Et puis, on a compris il y a quelque temps, déjà un grand moment, que la formation passait par le visuel, donc on est passé au côté, visuel, vous voyez, ça s'améliore tout le temps. Et puis, on s'est rendu compte aussi que les gens avaient besoin qu'on les aide à gérer leur épargne, donc on a créé l'Université de l'Épargne, mais à chaque fois, c'est parce qu'on a eu des contacts avec vous et qu'on s'est dit, mais de quoi ont-ils besoin? Et donc maintenant, on pense qu'il y a quelque chose vers la sécurité, on va aller vers la sécurité. Mais si vous avez des idées des endroits où on doit aller, vous nous le dites. Nous, on est là pour ça, à condition qu'on soit capable de le faire. Parce que
oui,
je ne vais pas vous mettre à vous parler de médecine, hein, ça, je ne suis pas compétent.
Non.
Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais encore une fois, merci pour tout.
Ou de la collection automne-hiver.
La collection automne-hiver, ça je ne suis pas très balèze non plus. On pourrait faire des cours sur les bandes dessinées, parce que là, jusqu'aux années 80, après les années 80, c'est devenu nul, mais jusqu'aux années 80, c'était bien les bandes dessinées.
Ouais. Oui, c'est vrai que tout ce qui est rubrique à braque, je pense que tu es incollable. Tout ce qui est concombre masqué.
Concombre masqué, rubrique à braque, le
Valérian
petit Nicolas.
Valérian et
Laureline, tout ça, je suis absolument incollable.
Ouais, incollable.
Et mais pour ceux que ça intéresse, il y a deux livres que vous devez lire dans ce sera vos lectures de Noël. C'est Le nid des marsupilamis. Ça vous apprend ce que c'est qu'être un père de famille. C'est vachement important. Et dans le domaine de la science politique, le Schtroumpfissime, c'est quand même ce qu'on a fait de mieux sur la constitution de la cinquième. C'était par Peillot. C'est à mourir de rire parce que vous avez tellement l'impression que vous voyez,
Alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est dans Valérian et Laureline, c'est le grognon de Ploux.
Oui, il est très bien, c'est celui qui faisait de l'argent quand on lui appuyait dessus. Quoi.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas un multiplicateur keynésien?
En tout cas, c'est
le
un gars
grognon
qui crée...
de Ploux.
C'est celui qui, on lui appuyait dessus et il crachait des pièces.
C'est comme ça que j'appelle ma fille quand on la nourrit pas à heure fixe. C'est mon petit grognon de Ploux, c'est que tu lui donnes... En fait, on lui donnait un diamant, puis il refaisait des diamants, mais après, il était tout grognon.
Il aimait pas le faire,
oui. Sinon, il était tout rose, et puis quand il faisait un grognon de Ploux, après, il était
une espèce de rat.
Comme un ragondin. Enfin, comment ils s'appelaient ceux qui ont donné le Covid, là, soi-disant
Ah oui, ceux qui avaient des écailles sur le dos.
Oui,
là,
c'était un peu ça, un grognon de Ploux.
Il était plus
ça.
Gros, le...
Un pagolin.
Ouais, bon, mais voilà, on a dit. Mais surtout pour la science politique, lisez le Schtroumpfissime.
Le Schtroumpfissime.
Ah, ça, c'est quand même très bien.
Très important. Oui, voilà. Bah, écoutez, je suis ravie d'avoir encore une fois passé une année avec vous. On va vous laisser donc un petit peu pour cette trêve des confiseurs reprendre deux fois de la dinde et
des marrons glacés.
Et des marrons glacés et force bûche et tout ce qui va avec. Et on se retrouvera à la rentrée pour d'autres sujets qui vont nous faire 2025.
Mais
je peux
vous assurer qu'en 2025, vous n'aurez pas de mal à maigrir.
Oh. Écoute. Déjà qu'on est. Déjà que tout augmente et qu'on n'est pas payé plus. Écoute.
Voilà.
Voilà, je vous dis à très bientôt et merci encore de nous suivre. Mettez des pouces. À très bientôt, merci.
Merci beaucoup.